À celle que j'aime, la terre, un texte d'Yvon Poitras. Je dis de la terre ce que je pourrais également dire d'une grande amie. Elle m'a aimé et je l'ai aimée. Elle m'aime et je l'aime encore chaque jour. Ses déceptions, ses maladies et ses craintes sont aussi les miennes. Je regarde son avenir et j'espère ardemment qu'elle sera en santé et donneuse de vie, de paix et de bonheur à jamais. Je communique comme nombre de croyants et de maîtres spirituels à la conviction du poète Lamartine qui dit que l'univers est le temple et la terre est l'autel. Je crois que mon amie, la terre, est animée par la présence de notre Dieu créateur, une présence dynamique, toujours en offrande de vie, d'amour, d'espérance, toujours source de vitalité et d'avenir pour chaque créature, qu'elle soit corail, étoile, baleine bleue, jeune femme ou vieillard. Fabiola, une amie, m'écrivait récemment du Portugal, où elle parcourait avec sa mère Françoise et la famille de son frère Daniel les beautés de la nature et de l'art de ce pays enchanteur. Le bon Dieu reste toujours présent où que nous soyons sur la terre. Quelle chance! Oui, et quelle responsabilité! Dans ma réflexion, je vous confierai l'amour que nous avons vécu et que nous vivons toujours, la terre et moi. Les peurs qui m'inquiètent et qui angoissent bien des contemporains en pensant à demain. Je dirai également l'espérance qui m'anime malgré tout et qui inspire nombre d'hommes et de femmes de maintenant. Et je terminerai en exprimant une prière à ma chère terre. Aimer la terre, c'est beaucoup comme aimer une personne. L'amour vrai est un échange libre d'offrandes et d'accueil mutuel à tous les niveaux. Les personnes qui s'aiment offrent et accueillent sentiments, émotions, tendresse, compassion, désir, valeur, conviction, rêve, idées, spiritualité. Il y a dans l'amour authentique une interpénétration des personnes qui leur donne de grandir ensemble de tout leur être. Il existe dans la relation amoureuse entre moi et la terre une expérience semblable. Pas étonnant puisque nous sommes deux créatures du même Dieu amour, du Dieu des vivants, du Dieu de l'avenir sans brisure. Cette réalité d'interpénétration à multiples niveaux me rappelle des moments où je suis entré à l'intérieur de mon ami la terre dans un élan d'amour, d'admiration, de plaisir, de bonheur et de joie. J'ai plongé, nagé dans une foule de rivières, de lacs, de geysers et d'océans. Je me suis laissé arroser généreusement par la chute Vauréal à Anticosti et par celle du parc des Hautes-Gorges dans Charlevoix. J'ai même exploré des cavernes en Ontario. J'ai navigué au son de la musique classique dans la grotte de Bétaram près de Lourdes. J'ai visité avec une lampe de mineur au front le trou de la Fée au lac Saint-Jean. Cette caverne servait de cachette à des hommes qui ne voulaient pas faire la guerre de 39-45. Leurs épouses venaient leur porter leur repas en se faufilant dans la noirceur. Mon expérience la plus impressionnante fut toutefois aux États-Unis, dans le Massachusetts. J'ai descendu en ascenseur avec quelques amis de camping dans une caverne à 500 pieds sous terre. Et qu'avons-nous trouvé là? Un ruisseau dynamique, coulant entre des pierres multicolores, nous avons vogué joyeusement en chaloupe sur cet étonnant cours d'eau. Plus saisissant encore, il y avait cette profondeur, une chapelle naturelle à peine aménagée, une pierre rouge en forme de cœur décorait le sol devant l'autel. De jeunes femmes et de jeunes hommes venaient s'y marier dans l'amour, bien accueillis par la terre, sans doute ému parce qu'habité par notre Dieu tendresse. J'ai entendu ce jour-là un merveilleux message. Dans la profondeur de la terre, notre Dieu nous attend encore et nous aime. Celle que j'aime, la terre, est une merveilleuse messagère d'un amour sans frontières. Ma belle, la terre, je l'ai aimée spontanément. Je l'ai aimée spécialement en m'émerveillant devant ses splendeurs, parfois lointaines. Le Danube en Autriche, les montagnes enneigées en Inde, les lacs turquoises dans l'Ouest canadien, mais aussi, souvent, près de chez nous, les campanules bleues accrochées aux rochers de la Manganie, les jardins de Fernand en Estrie, les rochers rouges des îles de la Madeleine. Je l'ai aussi aimé de tendresse. Je lui ai aidé à préserver ses charmes et je me suis même efforcé de l'embellir, spécialement autour du chalet à l'Ascension. J'ai taillé des arbres et des haies, j'ai planté des chênes, veillé sur la source qui coule de la montagne, enlevé des algues qui envahissent le lac de nos joyeuses baignades. J'ai épierré le petit chemin qui relie la grande route au chalet à travers la montagne. J'ai transporté les pierres avec Étienne, un ami trisomique, et avec Lucille, sa marraine. Nous avons créé une rocaille sortie d'une quarantaine de sortes de fleurs de cette région nordique. Et depuis plus de 40 ans, j'entoure notre maison communautaire à Montréal de plates-bandes joliment fleuries, décorées de cèdres pimpants, de lilas japonais, de vignes qui remontent également et allègrement vers le ciel à chaque printemps. Je l'ai encore aimé de compassion, ma chère terre. J'ai longtemps cultivé un jardin chez des amis à l'Ascension. Je le protégeais vaillamment des marmottes gourmandes de salades fraîches et de feuilles de choux. Nous avons même été déçus, mon ami Jacques et moi, de devoir en éliminer une avec un piège à ours. Nous avons également éloigné à jamais avec un pistolet en pleine nuit un porc-épic qui venait régulièrement improviser avec son bec sous le chalet des pièces de tambour qui nous empêchaient de dormir. Nous avons fait des funérailles respectueuses à ces deux victimes. Nous les avons enterrées et nous leur avons offert un joli monument en pierre. Mais j'ai peur pour celles que j'aime quand je vois ou j'apprends que la rivière cristalline de mon enfance dans laquelle nous nagions et pêchions des crêpes à soleil est maintenant polluée. Quand la plage sablonneuse de mon adolescence à Oka est, depuis un bon moment, envahie d'algues rébarbatives. Quand j'apprends que la température moyenne grimpe constamment au Québec, à Montréal, à l'été 2018, qui a été le plus chaud de l'histoire, à Laval, on a enregistré 86 morts lors d'une canicule et on prévoit au Québec plus de 20 000 décès en raison d'une vague de chaleur d'ici 2065. Où j'ai peur que grâce à l'adoucissement de nos hivers, certains insectes tels que les moustiques vecteurs du virus du Nil ou la tique qui transmet la maladie de Lyme se propagent au Québec. J'ai peur que la population des abeilles et des papillons, si utiles à la floraison, à la culture, diminue dramatiquement et que le niveau de l'eau, qui pourra grimper de 30 à 60 cm au cours des prochaines décennies, amène des inondations, inondations qui ont chassé cette année au Québec 10 000 personnes de leurs maisons et qui se multiplieront. J'ai peur que le volume des glaces marines et côtières baisse de 90 % d'ici 2100, que les rives de la Côte-Nord et des îles de la Madeleine seront en danger, ainsi que des milliers de bâtiments privés au public. Oui, j'ai peur que tornades et ouragans se multiplient. Un seul épisode de verglas l'été dernier a privé chez nous 35 000 clients d'électricité. Et j'ai peur que les besoins de chauffage diminueront l'hiver, mais que l'air climatisé sera plus nécessaire l'été, et qu'au total, la demande d'électricité diminuera et que les couffres d'Hydro-Québec en souffrent, j'ai peur que nous vivions un déclin de la biodiversité terrestre et aquatique comparable à l'une des grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. J'ai peur que la pollution de l'eau douce, de l'air et des mers, la raréfaction des ressources naturelles, la déforestation, l'érosion des sols par l'abus des pesticides annoncent un avenir malheureux. Oui, bref, j'ai peur. J'ai peur avec beaucoup d'autres, parce que l'humanité vit une menace existentielle très sérieuse et que nous approchons de points de non-retour. Même si l'humanité parvient à s'adapter aux nouvelles conditions, combien de femmes, d'hommes et d'enfants périront au cours de cette transition? Et comme l'a fortement souligné le pape François, les pauvres seront les premières victimes des changements climatiques. Pour le moment, comme le note Jean-Claude Rivet dans la revue Relations, nous devons admettre que les causes déterminantes de cette crise sont toujours présentes. Le productivisme, la marchandisation des personnes, l'individualisme et le profit à tout prix. Malgré les vives alertes lancées par des scientifiques, des artistes, des penseurs, des politiciens et le pape François, la conscience que nous traversons une période plus grave que jamais est encore faiblarde, dramatiquement faiblarde. On peut observer facilement l'absence d'une espérance forte et créative dans la vie de beaucoup d'individus, chez les gouvernements ainsi que les organisations mondiales. Où sont aujourd'hui les Gandhi, les Martin Luther King, les Nelson Mandela qui savaient entraîner leur peuple vers la création d'un monde meilleur? Nous pouvons heureusement nous réjouir de l'action courageuse et positive du pape François. Nous ne devons pas compter sur les recours des extraterrestres pour sauver la Terre et l'humanité. Les personnes, les associations, les églises, les villes, les gouvernements doivent développer une espérance humaniste vigoureuse qui en fera des forces créatrices capables de protéger notre sœur, notre mère, la Terre, et d'en faire un lieu de vie, de beauté, de fraternité, de partage, de paix et d'humanisation authentique. Appliquons à la recréation de la Terre le dynamisme que nous manifestons individuellement et collectivement, que ce soit dans les finances, l'économie, la consommation et le divertissement, et nous aurons de plus en plus raison d'entrevoir un beau demain pour notre chère Terre. Chacun de nous devrait se mobiliser librement, avec une ardente espérance au cœur, dans une équipe de survie de notre planète et de l'humanité. Le temps nous est compté, il y a extrême urgence. On peut heureusement identifier chez nous des irréductibles de l'espérance. J'en nomme quelques-uns, quelques-unes. Monique Laberge, Hubert Rive, Dominique Champagne, Joanne Gélinas, Stephen Guilbeault, Catherine Potvin, André Beauchamp. Le Parti vert avec Elisabeth May a réussi à faire élire des députés et une sensibilisation efficace se développe dans le monde de l'éducation, dans les journaux, à la télé, au théâtre. Cette jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, a lancé des appels vibrants lors de sa réception du prix Nobel et aussi devant l'Assemblée nationale à Paris. On voit chez nous et dans le monde des marches de jeunes pour une écologie responsable. Nous avons devant nous et devant nos libertés le plus grand défi de l'histoire. Accrochons-nous à une vigoureuse confiance. Crions, hurlons s'il le faut notre espérance. Croyons très fermement, comme le dit Josiane Criscoldo, que les beaux jours sont peut-être derrière nous, mais peut-être aussi pour demain. Et agissons avec toute la vigueur de nos capacités à l'avènement d'une terre renouvelée, conviviale, plus belle que jamais. et nos descendants pourront regarder notre époque avec une lueur de reconnaissance dans les yeux et un ardent désir d'embellir encore davantage notre chère terre. Je suis inquiet, mais je ne puis, avec beaucoup d'autres, accepter le sombre diagnostic du célèbre documentariste américain David Attenborough. La question, dit-il, est « Allons-nous arriver à temps? Allons-nous à faire assez? » Et dans les deux cas, selon lui, la réponse est non. Mais j'ai quelques motifs d'espérer qui me semblent prometteurs, indestructibles. J'ai d'abord confiance dans la bonté du fond et dans la clairvoyance de la liberté humaine, dans une prise de conscience progressive de la gravité du danger actuel, dans l'avènement d'initiatives individuelles, collectives, internationales qui ressusciteront notre chère terre. Je crois aussi au secours de notre Dieu qui n'abandonnera pas sa création. Je crois que l'espérance est plus humaine, plus salvatrice que le désespoir. Deborah Danofsky souligne bien que, je la cite, « l'un des grands mérites de l'encyclique Laudatio Si du pape François est qu'elle lie étroitement les causes de la dégradation de l'environnement, le souci de la terre et l'oppression, l'exclusion, l'inégalité et la pauvreté résultant du processus de mondialisation capitaliste actuel. » Je termine la citation. Écoutons également les mots interpellants de l'écologiste québécois André Beauchamp suite à l'appel vital, lucide et neuf lancé par le pape François dans son encyclique. Toutes les communautés chrétiennes, dit-il, devraient la lire, l'approfondir, en discuter. Je le dis en pleurant, l'ensemble de la classe politique et des responsables économiques de notre milieu a 50 ans de retard. C'est aujourd'hui qu'il faut changer. Je termine avec cette prière à celle que j'aime et que j'aimerai. Chère Terre, dès ma naissance, tu m'as donné l'air et la nourriture pour vivre et grandir. Tu m'as vite fasciné. Je suis allé t'admirer à pied, en canot, en auto, en train, en bateau, en avion. Je t'ai exploré pendant 25 ans en campant avec des amis de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, de l'ouest à l'est des États-Unis. Et tu as déployé la neige, la glace pour mon plaisir en train de sauvage, en patin, en raquette et en ski. Tu m'as offert des paysages à extase que j'ai gardés en photo et qui ont inspiré mes pinceaux. Je suis allé te retrouver là où l'on te reconnaît sacrée et sainte, l'Inde, Israël, et j'ai prié avec toi et pour toi. Et je t'offre aujourd'hui un psaume d'action de grâce sans fin. Je chante avec tout mon cœur, « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai ».